En attendant de reprendre bientôt une nouvelle série de messages pour la rentrée, nous allons examiner ce matin un texte que nous avions déjà médité il y a quelque temps et qui nous emmène vraiment en plein cœur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vraiment en plein cœur du message. Nous avons la conviction dans cette Église que ce n'est jamais de trop de revenir au cœur. Que ce cœur du message, que cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, on ne l'épuise jamais, on n'en a jamais fait le tour, on n'a jamais fini d'en parler. Alors, revenir au cœur de la bonne nouvelle, revenir aux fondamentaux du message, ça a du sens, bien sûr, pour ceux et celles parmi nous qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ ou n'ont pas encore fait cette rencontre décisive avec Jésus-Christ. Mais ça a également du sens pour nous qui le connaissons, qui marchons avec lui depuis un certain temps, peut-être depuis très longtemps, parce que nous croyons que notre vie est véritablement centrée sur cette bonne nouvelle. Que nous sommes appelés à être centrés sur cette bonne nouvelle. C'est elle qui fait toute la différence. Et c'est dans cet esprit que je voudrais que nous examinions ce texte ce matin. Vous le trouverez dans les Bibles bleues à la page 1273. Il s'agit de Romains, chapitre 7, lettre de Paul aux Romains, chapitre 7, l'ensemble du chapitre. Romains 7, verset 1. « Ignorez-vous, frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme, du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non sous le régime périmé de la loi écrite. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Certainement pas ! Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois, mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi ? Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et ainsi, par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? J'en remercie Dieu, c'est possible, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Amen. En 1997, le président de l'époque, Jacques Chirac, a décidé de supprimer le service militaire obligatoire. Je me garderai bien de donner un avis personnel sur cette décision, mais le fait est que cette réforme a eu un impact direct sur moi, puisqu'à 2 mois près, j'ai évité le service militaire, où diront certains, je n'ai pas eu cet honneur. En effet, la loi a désigné une année de naissance, la mienne, comme la première concernée. Et je me souviens qu'un ami à moi, du lycée, qui avait 4 mois de plus, qui a toujours d'ailleurs 4 mois de plus, et donc qui tombait juste dans l'année précédente, a dû faire des démarches en vue d'une dispense pour pouvoir continuer ses études, etc. Alors que pour moi, cette démarche n'a pas été nécessaire, la question ne se posait déjà plus, puisque la loi avait changé. Le chapitre 7 de la lettre aux Romains nous parle lui aussi d'un changement légal, d'un changement de loi, mais dans un domaine bien plus essentiel. Paul rappelle l'enseignement biblique selon lequel l'homme est pécheur, c'est-à-dire enclin à vivre sans reconnaître l'autorité de Dieu sur sa vie. Et ça se manifeste de façon très très différente selon les situations. Mais en tant que pécheur, l'homme est coupable aux yeux de son Créateur. L'homme s'est détourné de celui qui lui a donné la vie, le mouvement et l'être. Mais Jésus, en mourant sur la croix, a pris sur lui cette culpabilité. Il a accepté de subir la condamnation de Dieu à la place de l'homme pécheur, pour que nous soyons pardonnés et réconciliés avec Dieu. Nous avons rappelé ça tout à l'heure en prenant le repas du Seigneur. Voilà la bonne nouvelle qui est au cœur de cette lettre aux Romains et qui, en fait, est au cœur même de toute la Bible. Mais au cours de ce développement parfois assez complexe que fait l'apôtre Paul dans cette lettre aux Romains, eh bien, au chapitre précédent, au chapitre 6, il va lâcher une phrase choc alors qu'il parle de la vie nouvelle qui est offerte en Jésus-Christ. L'apôtre écrit ceci, chapitre 6, verset 14, « Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Pourquoi une phrase choc? Parce que la loi dont l'apôtre Paul parle ici, c'est la loi, en premier lieu, la loi de Moïse donnée au peuple d'Israël par Dieu lui-même. Comment Paul peut-il laisser entendre que la loi donnée par Dieu serait maintenant dépassée, que nous ne serions plus sous la loi? Pire, comment peut-il affirmer que nous avons été libérés de la loi? Eh bien, Paul va préciser sa pensée, notamment dans ce chapitre 7. Et il va le faire en deux points essentiels que propose de résumer ainsi. D'abord, pourquoi nous devons être libérés de la loi? Et nous passerons la plupart du temps sur ce premier point. Pourquoi nous devons être libérés de la loi? Et puis ensuite, comment Dieu nous a libérés de la loi? Pourquoi donc nous devons être libérés de la loi? Dans ce chapitre, l'apôtre Paul, comme il le fait souvent dans cette lettre aux Romains, il ouvre une parenthèse. Il aime bien ouvrir des parenthèses. Et comme souvent, chez lui, c'est une parenthèse assez longue et développée. Il veut montrer donc à ses lecteurs, chrétiens de la ville de Rome et au-delà, chrétiens de toutes les générations, il veut leur montrer qu'ils sont libérés grâce à Jésus-Christ de la condamnation de la loi de Dieu. Mais, on l'a dit en introduction, cela suscite la question, est-ce que la loi de Dieu, qui par définition, elle vient de Dieu, elle ne peut être que juste et bonne, comment est-ce que ça peut être une mauvaise chose? Et comment est-ce que Paul peut dire que nous devons en être libérés? Et en résumé, la réponse de Paul, c'est de dire, ce n'est pas la loi elle-même qui est en cause. Effectivement, la loi, elle est juste, elle est bonne, elle est sainte. Mais parce que nous sommes pécheurs, eh bien, la loi ne peut avoir au final, ultimement, qu'un seul résultat pour l'homme pécheur, c'est le condamner. Et donc le conduire au désespoir. Et ce que l'apôtre Paul va mettre en évidence, en particulier, c'est un cercle vicieux. Vous connaissez l'expression « cercle vicieux ». Je donne un exemple parmi plein d'exemples possibles. Exemple qui me parle particulièrement en tant que parent. Alors si j'avais écrit le message juste ces derniers jours, j'aurais pris l'exemple peut-être du décalage horaire. Mais là, c'est un peu analogue. Un jeune enfant dort mal parce qu'il est malade. Vous voyez qu'on est dans le thème quand même. Un jeune enfant dort mal parce qu'il est malade. Mais comme il est malade, eh bien, il dort mal, continue à mal dormir. Mais plus il dort mal, plus il reste malade, parce que son corps ne récupère pas. Plus il reste malade, plus il dort mal. Et on ne s'en sort pas. Et cet exemple, j'aurais pu en donner évidemment plein d'autres. Un cercle vicieux, c'est un problème dont on ne parvient pas à sortir, un problème qui en fait s'auto-entretient. Eh bien, selon l'apôtre Paul, la loi de Dieu enferme l'homme dans un cercle vicieux. Et c'est ce qu'il explique au verset 7. « Je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qui la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Et écoutons bien le verset 8 qui suit. Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. Que nous dit l'apôtre ici? Les commandements de Dieu sont bons, ils sont pour notre bien. Paul le souligne au verset 7, au verset 12, il insiste là-dessus, la loi de Dieu, elle est bonne. Mais tragiquement, parce que l'homme est pécheur, la loi eh bien, devient pour lui une occasion de pécher, une occasion de transgresser la volonté de Dieu. Alors, il y a plusieurs aspects à cela. Tout d'abord, la règle invite la transgression. Et on peut voir ça dans de petites choses de la vie courante. Là encore, un exemple tiré de la petite enfance. Je ne sais pas pourquoi je pense toujours à ces exemples-là. Mais aller dire à un enfant, par exemple, « Surtout, ne va pas ouvrir ce placard !» Bien, la première chose qu'il aura envie de faire, c'est d'aller ouvrir le placard en question. Mais plus fondamentalement, l'homme pécheur cherche à obéir à la loi de Dieu par sa propre droiture, par sa propre piété, plus son incapacité à obéir à cette loi va être révélée au grand jour. Et plus il va s'exposer au jugement prévu par cette loi. Et là, on comprend la gravité de ce cercle vicieux. Plus il y a la loi, plus il y a le péché, c'est ce que nous dit Paul. Ça paraît étonnant, mais c'est l'effet de la loi sur l'homme pécheur. Or, la loi, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle condamne le péché. Elle dénonce et elle condamne le péché. Et donc, l'homme pécheur, face à la loi, il pêche de plus en plus et il se retrouve de plus en plus condamné par cette loi. Je vous propose un autre exemple pour essayer d'illustrer cela. Imaginez un pays très corrompu, où pour obtenir de l'argent, que ce soit son salaire, que ce soit un emprunt bancaire ou autre, il faut verser des pots de vin. Imaginez maintenant que dans ce même pays, une loi stricte est imposée. Tous ceux qui ont versé des pots de vin doivent payer une très forte amende. C'est juste, c'est une bonne loi de combattre les bakchiches, les pots de vin, c'est une bonne chose. Maintenant, imaginons que dans la réalité pratique de la vie des gens, en fait, rien n'a changé. C'est-à-dire que les gens ne peuvent toujours rien obtenir sans verser un pot de vin. Mais maintenant, ils doivent payer des amendes. Et du coup, pour pouvoir payer ces amendes, ils doivent aller verser d'autres pots de vin. Et donc, plus la loi est effectivement mise à exécution, plus les gens s'enfoncent dans la transgression de cette loi. Alors, l'exemple n'est pas parfait, il vaut ce qu'il vaut, mais voilà en quelque sorte quel est le terrible dilemme de l'homme pécheur face à la loi. La loi est juste, mais elle ne fait que susciter la condamnation pour l'homme pécheur. Quand il parle de la loi, l'apôtre Paul pense en premier lieu à la loi de Moïse, je l'ai dit, la loi donnée par Dieu à Israël, telle que nous la révèle l'Ancien Testament. Mais au début de sa lettre, l'apôtre Paul a bien souligné que chaque être humain, y compris les non-juifs, a d'une manière ou d'une autre un sens du bien et du mal qui nous vient de Dieu et qui lui sert de loi. Une loi qui, dit-il au début de la lettre, nous accuse et nous défend tour à tour. Or, plus on se place sous une loi, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit morale, plus on constatera qu'on n'est pas à la hauteur. C'est le drame du péché. Et en fait, si on est honnête, on constate que nous sommes régulièrement en porte-à-faux avec nos propres principes, sans même parler de la loi de Dieu. Mais nos propres principes reflètent peut-être la loi de Dieu. Imaginons quelqu'un qui a en théorie de grands principes humanistes, mais qui passe sa vie à critiquer et à accuser les gens qui sont de fait autour de lui dans sa vie quotidienne. Ou bien quelqu'un qui a de grands discours face peut-être au déclin moral de la société, ou bien contre l'exploitation des femmes, mais qui consulte régulièrement des sites pornographiques. Ou bien quelqu'un qui attend des autres qu'ils soient disponibles et généreux à leur égard, mais qui a beaucoup de mal à faire de même envers les autres. On pourrait multiplier les exemples et peut-être ne sont-ils pas si loin de notre réalité. Nous ne sommes pas à la hauteur de nos propres principes. Alors que dire de la loi de Dieu que Jésus a résumée ainsi, rappelons-le, Luc 10, 27, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». De toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Waouh ! Pour ma part, je constate qu'il n'y a pas un jour où j'aime vraiment le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Il n'y a pas un jour où j'aime vraiment mon prochain et même mes plus proches prochains comme moi-même. Où ce qui leur arrive m'affecte autant que si ça m'arrivait à moi. La loi est bonne, nous dit Paul. Elle est juste, elle est sainte, mais face à elle, encore et encore, nous sommes trouvés coupables. Même si nous sommes, au vu de la société, des gens bien, des gens droits globalement, devant la loi de Dieu, parfaite, juste et bonne, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous transgresseurs. C'est très impopulaire à dire. Mais si nous ne comprenons pas cette vérité biblique, alors nous ne comprendrons pas la bonne nouvelle qui est au cœur de la Bible. Face à la loi, l'homme pécheur ne peut que se retrouver encore et encore en situation de coupable. Et c'est, je crois, ce que Paul va décrire de façon particulièrement poignante au verset 14 à 25. Pour résumer, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Extrait bien connu de cette lettre. Ce passage est débattu. Pour beaucoup de lecteurs et commentateurs, Paul parle ici de son expérience en tant que chrétien, de la lutte que vit tout chrétien envers sa tendance naturelle à pécher, sa tendance naturelle à pécher et son aspiration à obéir à Dieu. Et qui ne se reconnaît pas dans cette lutte entre notre tendance naturelle à pécher et notre aspiration à obéir à Dieu. Et cette interprétation de ce texte précis, qui est la plus courante, a des arguments en sa faveur. Notamment le fait que Paul parle au présent et utilise la première personne du singulier. Néanmoins, personnellement et à la suite d'autres commentateurs, je trouve plus convaincante une autre lecture qui, à mon sens, tient mieux compte du contexte. Selon cette lecture, Paul ne parle pas ici de son expérience en tant que chrétien, mais illustre ce qu'il vient de dire dans la première partie du chapitre, à savoir que le commandement condamne encore et encore l'homme pécheur. Verset 5. « En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses, éveillées par la loi, agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » Et là, dans ce verset 5, indiscutablement, Paul ne parle pas d'une lutte dans la vie chrétienne, mais comme il le précise bien, de l'ancienne vie dominée par le péché, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, un péché renforcé, exacerbé par la loi de Dieu. Or, il me semble que les versets 14 à 25 approfondissent cette même idée. Versets 19 et 20. « En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » En fait, c'est plus qu'une lutte, ce que Paul décrit ici. C'est une défaite et c'est un esclavage. Et c'est précisément ce qu'il exprime au verset 14. Cet homme est vendu comme esclave au péché. Il veut être un bon croyant, un homme religieux, il veut obéir à la loi de Dieu, mais il en est incapable, et ça le conduit au désespoir. Verset 24, « Malheureux être humain que je suis !» Or, Paul a passé la moitié du chapitre 6 précédent à expliquer que ceux qui ont confié leur vie à Christ ont été libérés de l'esclavage du péché. Ferait-il vraiment marche arrière ici au chapitre 7 pour dire à propos de lui-même en tant que chrétien, je suis vendu comme esclave au péché? Pour ma part, il me semble beaucoup plus probable que Paul utilise ici la première personne pour décrire de façon particulièrement poignante le vécu de cet homme religieux qui constate avec désespoir qu'il ne peut pas être à la hauteur par ses propres forces des commandements de Dieu. Et ce constat plaise à Dieu. Ils conduisent à l'évangile. Cet homme religieux que Paul lui-même était avant de rencontrer Jésus-Christ. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de lutte dans la vie chrétienne ou que le péché n'aurait plus d'impact sur nous. Nous savons bien, malheureusement, que la lutte est encore là et que le péché a encore un impact sur nous. Et Paul et d'autres textes du Nouveau Testament en parlent largement. Mais le chapitre 8 montrera que la vie chrétienne est avant tout une vie de liberté, vécue par la puissance du Saint-Esprit, la liberté d'obéir à Dieu sans craindre sa condamnation. Cela dit, le fait est que nous pouvons souvent nous retrouver dans ces versets en tant que chrétiens. Et c'est pourquoi l'interprétation que nous adoptons, au final, n'est pas absolument essentielle. Parce que justement, si nous cherchons à être justes aux yeux de Dieu par nos propres forces, par notre capacité à obéir à sa volonté, eh bien nous allons nous retrouver très rapidement dans la situation de cet homme divisé, malheureux, qui s'écrie « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et comme il le dit lui-même, heureusement pour nous, grâce soit rendue à Dieu, Dieu nous a délivrés par Jésus-Christ. Il nous a délivrés d'un régime dans lequel nous ne pouvions pas échapper à la condamnation. Il nous a délivrés du régime de la loi qui ne pouvait que nous condamner. Et ça nous amène à notre second point qui sera nettement plus bref. Comment Dieu nous a libérés de la loi ? Si vous avez un peu suivi les informations ces dernières semaines, j'imagine que vous avez entendu parler comme moi du décès du criminel Jeffrey Epstein, milliardaire arrêté il y a quelques mois pour des accusations très graves sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Epstein, vous l'avez entendu certainement, a été retrouvé mort, apparemment par suicide, le 10 août. Je ne vais pas non plus rentrer sur toutes les théories du complot à ce sujet. Mais au risque de souligner l'évidence, ce décès met automatiquement fin à toutes les poursuites judiciaires, contre Epstein, même si, par ailleurs, l'affaire va continuer pour voir quelles étaient les personnes qui étaient compromises dans cette histoire, mais pour Epstein lui-même, l'affaire est terminée. Il n'y aura pas de procès contre lui, il n'y aura pas de sentence judiciaire contre lui. Une fois qu'un homme est mort, la loi ne peut plus rien contre lui. Et même si cet exemple n'est pas très réjouissant, eh bien c'est ce principe-là que souligne l'apôtre Paul au début du chapitre 7. Verset 1, « Ignorez-vous, frères et sœurs, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. » C'est une autre façon de dire ce qu'on vient de souligner. Une fois qu'un homme est mort, la loi ne peut plus rien contre lui. Alors Paul va donner sa propre illustration de ce principe au verset 2 et 3. En expliquant que, par exemple, et c'est un exemple qu'il donne ici, quand un homme meurt, sa femme n'est plus mariée avec lui. La mort met fin à la réalité juridique du mariage et sa femme peut donc se remarier si elle le souhaite. C'est une image que Paul utilise ici, il n'est pas tout d'un coup en train de passer à un enseignement sur le remariage, c'est vraiment une image qu'il donne. Mais où est-ce qu'il veut en venir ? Eh bien là, il convient de rappeler ce que Paul a dit plus tôt dans cette lettre aux Romains. Au chapitre 6 en particulier, Paul nous a expliqué qu'en plaçant sa foi en Jésus, on s'associe, mais c'est plus fort que s'associer, on lie sa vie à la mort de Jésus sur la croix et à sa résurrection. Notre vie devient intrinsèquement liée à ce que Jésus a fait en mourant sur la croix et en sortant du tombeau. Si j'ai reconnu en Jésus mon Sauveur et Seigneur, eh bien c'est comme si l'ancien moi, l'ancien Matthieu, était mort à la croix avec lui, en subissant la condamnation en Christ pour tous mes péchés. Et le nouveau moi est ressuscité avec lui et peut vivre une vie nouvelle, libérée de la condamnation. Voilà d'ailleurs ce que symbolise précisément le baptême. Et c'est là que derrière ce texte un peu complexe à première vue, il y a une réalité époustouflante. Verset 4. « De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ. » Paul nous dit ici que le pécheur condamné que nous étions est mort aux yeux de la loi. Cet homme-là qui était coupable, il est mort. Il est mort avec Jésus sur la croix, cet homme, cette femme. La loi, que ce soit la loi de Moïse ou plus généralement la loi de notre conscience, ne peut plus nous condamner aux yeux de Dieu. Elle peut peut-être nous instruire, elle peut peut-être nous donner envie d'obéir à Dieu. Les théologiens, la Réforme, ont beaucoup débattu sur ce point, je n'irai pas plus loin à cet instant. Mais en tout cas, elle ne peut plus nous condamner aux yeux de Dieu. La mort de Jésus sur la croix a définitivement soldé notre compte. La mort de Jésus a clos notre dossier, notre casier judiciaire, pour toujours. Le coupable que j'étais juridiquement devant Dieu, si on peut dire, est comme mort avec Jésus sur la croix. Et la justice de Dieu lui-même ne peut plus rien contre lui, ne peut plus l'accuser. Parce que Dieu l'a choisi ainsi. Parce que Dieu a fait porter à Jésus notre condamnation. Et c'est désormais un nouveau moi, libéré de la condamnation qui vit. Alors là, quelqu'un pourrait dire, oui, mais concrètement, je continue à pécher. Alors est-ce que ça ne veut pas dire que je vais à nouveau encourir la condamnation de Dieu ? Effectivement, nous continuons encore à pécher de ce côté-ci de la délivrance finale, éternelle, que Dieu nous accordera. Mais c'est là que la bonne nouvelle resplendit dans toute sa force. Verset 6, « Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime périmé de la loi écrite. » Paul nous dit que nous avons changé de régime. Nous, et écoutez bien ceci. Nous ne sommes plus évalués dans notre relation avec Dieu en fonction de notre obéissance à la loi. Est-ce que c'est important d'obéir aux commandements de Dieu ? Évidemment. J'y reviens. Mais notre relation avec Dieu n'est plus évaluée devant la justice de Dieu en fonction de notre capacité à obéir à la loi. Ce qui détermine notre relation avec Dieu en tant que chrétien, ce n'est pas notre capacité à obéir à la loi, mais c'est la relation intime et personnelle qu'il a décidé souverainement de nous offrir par sa grâce en Jésus-Christ. Il n'y a rien que nous puissions faire qui nous rendra moins aimés. Il n'y a rien que nous puissions faire qui nous rendra moins pardonnés. Il n'y a plus de condamnation, chapitre 8, verset 1, qui suit directement notre texte. Il n'y a plus de condamnation dans la vie avec Jésus-Christ. Alors je l'ai dit, attention, est-ce que ça veut dire que maintenant on n'a plus à obéir à Dieu, comme l'apôtre Paul aime le dire, jamais de la vie? Bien sûr que si, parce que nous appartenons à Jésus, verset 6, nous appartenons à celui qui est ressuscité afin que nous portions des fruits pour Dieu. Et là en arrière-plan, il y a encore cette image de l'épouse qui a perdu son mari, qui n'est plus mariée à celui qui est décédé, mais qui s'est remariée à un autre. Nous appartenons à Jésus, verset 6, celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Si nous sommes nés à une vie nouvelle par la grâce de Dieu, ce n'est pas pour revivre comme avant. Ce n'est pas pour continuer à vivre comme nous, si nous étions un pécheur condamné, mais c'est pour vivre une vie d'obéissance. Et Paul va développer tout cela au chapitre 8. Mais notre relation réconciliée avec Dieu est garantie parce que cette relation ne dépend pas de notre capacité à obéir à la loi. Elle nous a été offerte par Jésus-Christ. Elle dépend de son obéissance à lui. Et si nous ne sommes plus condamnés, c'est parce qu'il a subi le jugement à notre place. Voilà l'évangile. Voilà ce qui est au cœur de la bonne nouvelle. Et voici ce que l'apôtre écrit dans sa lettre aux Colossiens. Et Paul Bourdois, non pas l'apôtre, a cité ce texte tout à l'heure. Colossiens 2, 14, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a effacé l'acte d'accusation, il l'a cloué à la croix et il l'a donc annulé. Est-ce qu'on peut être plus clair que cela ? Si nous avons confié notre vie à Jésus-Christ, si nous l'avons reconnu comme Seigneur et Sauveur, Dieu ne nous condamne plus. Et ne nous condamnera plus. Maintenant, lorsque nous constatons le péché dans notre vie, ce qui malheureusement arrive régulièrement, nous sommes appelés non pas à chercher à lutter par nos propres forces, mais à puiser dans les forces de Dieu, dans cette relation libre avec Dieu, en faisant appel à l'œuvre transformatrice du Saint-Esprit, par la prière, et en déclarant avec foi, et ça peut-être notre prière ce matin. Je ne suis plus cet homme ou cette femme condamnée. J'ai été libéré. Et par conséquent, je ne veux plus entendre parler de ce péché qui m'avait condamné à tes yeux. Et maintenant que tu m'en as libéré, Seigneur, je veux te suivre, je veux t'aimer, je veux t'obéir. Je veux obéir à celui qui m'en a délivré, Jésus-Christ. Seigneur, travaille dans mon cœur. Aide-moi à me détourner de ce que tu n'aimes pas. Aide-moi à utiliser cette liberté que tu me donnes, non pas pour désobéir, mais pour obéir et pour faire ce qui te plaît. Je t'appartiens, Seigneur. Je suis mort à la loi pour t'appartenir à toi, pour porter des fruits pour Dieu. Merci pour cette bonne nouvelle. Et donne-moi de me laisser transformer par elle, par toi. Au nom de Jésus. Amen.